Et puis au Conseil des ministres de ce mercredi, après le bilan des lois Auroux, le gouvernement a examiné de nouvelles mesures concernant l'aide alimentaire au tiers-monde. Et il a par ailleurs adopté un projet de loi sur les droits d'auteur, un texte qui va rafraîchir la vieille loi de 1957 sur les propriétés littéraires et artistiques, au moment d'ailleurs où explosent les nouvelles techniques de communication. France Roche.
Le projet présenté au Conseil des ministres comporte trois volets. Premier volet, technologique. Il favorise l'investissement dans le câblage, le lancement et la recherche d'images synthétiques, afin que la France se situe à l'avant-garde des techniques nouvelles de production d'images. Deuxième volet, encouragement à la création de programmes grâce à un fonds de soutien à l'industrie des programmes et à l'Institut de financement des industries culturelles. Les concessionnaires de câbles devront affecter au moins 33% de leurs ressources à la création de programmes. Le troisième volet est juridique. Il établit le droit à la rémunération pour tous les collaborateurs de création à l'occasion de la diffusion des œuvres. Une redevance pour les copies privées sur cassette vierge sera progressivement mise en vigueur. Et surtout, les piratages seront très sévèrement sanctionnés. L'ensemble de ce projet élaboré depuis 2 ans tend à servir les créateurs devant des technologies qui pourraient la servir.
Voilà, ça c'était en 1984 Antenne 2, voilà, sur Antenne 2. Depuis, en 1994, un dénommé Bill Clinton a commencé à se pencher sur le droit d'auteur et à y travailler fortement, ce qui lui a valu en 1996 une lettre ouverte de 106 professeurs de droit. Ça n'a pas empêché d'aller faire signer un traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, sur le droit d'auteur, toujours en 1996. Après, en 2001, une directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins, EUCD, est votée. La France, je ne sais pas si elle l'a ratifiée finalement, je crois qu'elle n'avait pas ratifié.
Le traité ?
Ouais. Elle l'a ratifié finalement récemment. Donc.
En fait, c'est justement en ayant passé la loi d'ATSI que nous sommes devenus signataires
de ce traité. En 2003, en France, un certain Ayagon dépose le projet d'ATSI. Que un certain Christian Van Est, assez connu pour ses positions homophobes et etc., s'empresse d'étudier, ce qui aboutit le 30 juin 2006 au vote par l'Assemblée et le Sénat du projet d'ATSI.
Elle est passée au second plan pour cause de crise autour du CPE, mais la bataille qu'a menée le gouvernement sur le projet de loi concernant les droits d'auteur sur Internet a été également très houleuse. Les députés ont achevé au petit matin l'examen de ce texte. Il prévoit un éventail de sanctions contre le piratage et qui est loin de faire l'unanimité. Christelle Méral, Anne Bourse.
Internautes, attention, la loi va changer pour tous ceux qui se procurent gratuitement de la musique ou des films sur Internet. Actuellement, environ 8 millions de personnes ont l'habitude de s'échanger des œuvres sans rien payer grâce à des logiciels spécialisés. Mais ils s'exposent à de nouvelles sanctions. Ainsi, un internaute qui télécharge gratuitement une œuvre pour son usage personnel sera passible d'une amende de 38 euros. Si en plus, il transmet à d'autres cette œuvre téléchargée illégalement, il risque 150 euros d'amende. Enfin, le contournement des mesures de cryptage qui empêchent les copies multiples pourra entraîner une sanction de 750 à 30 000 euros. Le gouvernement veut protéger les artistes et leur assurer une rémunération.
Il fallait avoir le courage de dire, ce qui n'était pas facile, que la gratuité ne permet pas la rémunération du travail des artistes. Alors ça, vous n'êtes pas populaire quand dans un premier temps, vous dites cela. Ceci étant dit, un artiste, il a le droit de diffuser gratuitement son œuvre pour se faire connaître et il a le droit également de vouloir vivre de son travail.
Le ministre défend, lui, les sites de téléchargement payants. La loi clôt un véritable feuilleton parlementaire. Mais la gauche et certains élus de droite ne décolèrent pas. Ils dénoncent un texte répressif, favorisant avant tout l'industrie du disque et du cinéma et contraire à l'esprit Internet.
Je suis un peu triste qu'on ne comprenne pas ce qu'est l'innovation d'Internet, qu'on mette en place une loi totalement inapplicable, sauf à mettre un policier derrière chaque internaute, qu'on réduise la copie privée. Quand vous achetez un livre, vous avez le droit de le prêter à votre belle-mère ou à votre cousine. Au nom de quoi vous n'aurez pas le droit de profiter d'Internet pour transmettre un morceau de musique, ce que font des millions de Français.
Les opposants réclament la création d'un abonnement autorisant le téléchargement à volonté. Cet abonnement permettrait de rémunérer les artistes. C'est la fameuse licence globale qui a été enterrée par le gouvernement.
Et ça, c'était France 2 en 2006. C'était un petit choix de son fait par Jérémy. On va revenir, nous on va faire plus que 3 minutes au journal du soir, on va y consacrer l'émission. Avant ça, je termine la chronologie. Après le vote, donc le 30 juin de la DATSI à l'Assemblée et au Sénat, le 7 juillet, il y a une saisine du Conseil constitutionnel qui est déposée par 60 députés, donc de gauche et de l'UDF. Le 27 juillet, le Conseil constitutionnel trouve qu'il n'y a rien à dire à la DATSI, qu'elle est tout à fait correcte et que même il faudrait la durcir un petit peu pour que ce soit absolument parfait. Et le 20 septembre 2006, dernier rebondissement, Renaud Denodieu de Vabre annonce un décret portant sur les contraventions applicables au contournement de la DATSI réalisé à l'aide d'outils dédiés. Donc j'ai utilisé tout un tas de vocabulaire extrêmement barbare dans cette rapide chronologie que Christophe Esperne de EUCD.info et Tanguy Morlier de StopDRM vont pouvoir nous expliquer. Bon, déjà, est-ce que vous pourriez présenter vos collectifs respectifs?
Déjà, bonjour. Donc, UCD.info, c'est une initiative qui a été créée fin 2002 par la Fondation pour le logiciel libre. Et le but, c'était d'informer en fait sur ce qui n'était alors qu'un projet de loi, donc au droit d'auteur. D'informer à la fois sur les risques pour le public en général, pour les bibliothèques, pour le domaine public et pour évidemment les auteurs et les utilisateurs de logiciels libres. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Fondation pour le logiciel libre, quand elle a lu l'avant-projet de loi, puisque ce n'était même pas un projet de loi à l'époque, c'était un avant-projet de loi, elle n'avait même pas été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, on s'est bien rendu compte que ça allait au-delà des problématiques des auteurs et des utilisateurs de logiciels libres et que ça touchait vraiment tout le monde. Donc on a créé UCD Info pour ça. Donc il y avait un objectif d'information du public et il y avait un objectif de sensibilisation des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on avait bien conscience que c'était une loi qui était technique et qui touchait à la technique et qu'il fallait peut-être expliquer aux gens dans les ministères, parce qu'à l'occurrence, à l'époque, les principaux responsables étaient les hauts fonctionnaires des ministères et le ministre lui-même, ce qui allait se passer s'ils adoptaient cette loi, enfin, cet avant-projet de loi devenait une loi, ce qui allait se produire. Donc on s'est baladé pendant 3 ans dans les ministères, aller voir régulièrement les uns et les autres pour leur expliquer le problème qu'on va détailler, je pense, sur la longueur pendant l'émission. Et puis, arrivé à proximité donc, de l'examen du texte, donc vers septembre 2005, on s'est rendu compte qu'ils étaient sourds et qu'ils n'entendaient strictement rien, mais on avait fait notre travail, nous. Donc on avait quand même 3 ans de rencontres, on avait fait des colloques, des formations. Alors on a beaucoup informé aussi, on s'est déplacé partout en France. Moi j'ai donné 50 ou 60 conférences un peu partout en France. Et donc on est passé à la mobilisation, donc l'action citoyenne un peu plus brutale, où on a commencé à médiatiser sur Internet. Et arrivé à début décembre, on a lancé une pétition pour montrer qu'il y avait sûrement beaucoup d'autres personnes que nous qui étaient contre ce texte. Et la pétition, en 15 jours, a fait 120 000 signatures et plus d'un millier d'organisations, dont 200 entreprises, et pas que des petites, aussi des très grosses entreprises comme Sun Microsystems, c'est des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et à côté de ça, on avait des collectifs de musiciens locaux, on avait des associations de bibliothécaires, on avait un peu tout le monde. Donc voilà, nous, notre travail, c'était d'informer, de sensibiliser, et puis quand on a vu que ça ne passait pas, ça a été de mobiliser un peu tout le monde. Et je pense qu'on a contribué, parce qu'on va le voir, je pense, au cours du débat, le texte a littéralement explosé en vol en décembre, et tout d'un coup il est devenu médiatique. Donc voilà pour UCD Info.
Et StopDRM dans la mobilisation intervient quand justement?
Alors dans la mobilisation, StopDRM intervient en novembre. En fait, on était
2005.
On était des internautes qui on a été informés entre autres par UCD de ce type du projet de loi. Et on était tellement estomaqués qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc on était en train de discuter en fait sur un forum de Framasoft. Et on s'est dit qu'il faut faire quelque chose, non seulement sur Internet, mais aussi dans la vraie vie. Et on a décidé d'organiser des actions pour essayer de sensibiliser les citoyens. Parce que nous, on est des citoyens qui sommes passionnés par la culture. On achète énormément de produits culturels, des CD, des DVD. Il y a très peu de gens parmi nous qui... ce que le ministre appelle des pirates, qui téléchargent illégalement. Et nous, on essaye de faire de l'information pour dire que cette loi-là, eh bien, elle va aussi contre les artistes et surtout contre les gens qui veulent essayer de faire du commerce autour de la musique. On expliquera tout à l'heure pourquoi, avec des petits verrous numériques qu'on appelle des DRM en anglais, comment ça met vraiment en danger toute une économie de la culture.
D'accord. Mais justement, donc, venons-en au fait. Qu'est-ce que cette loi DATSI ?
Alors, la loi DATSI, l'objectif de la loi et donc de la directive et du traité international, c'est de protéger juridiquement, alors accrochons-nous, les mesures techniques de protection des œuvres protégées. Donc on a sur un mécanisme de protection juridique, technique, récursif, etc. Donc concrètement, plutôt que de parler de DRM, de mesures techniques, qui sont des termes qu'on ne perçoit pas forcément, qui ne parlent pas tout de suite, des dispositifs de contrôle d'usage. Là, ça parle un peu plus, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous avez un CD, et puis vous voulez le copier sur votre ordinateur, parce que vous partez en voyage, vous avez la chance d'avoir un ordinateur portable, et vous partez en voyage. Et vous voulez copier la musique du CD sur l'ordinateur portable pour pouvoir l'écouter. Ou, plus simplement, sur un baladeur MP3, comme on peut en trouver dans toutes les grandes surfaces, dignes de ce nom ou pas dignes de ce nom. Et donc, un DRM, un dispositif de contrôle d'usage, va vous empêcher de transférer le contenu du CD vers le support, vers le matériel que vous avez acheté. Donc ça empêche ce qui s'appelle en fait l'interopérabilité, non un peu barbare, mais en fait c'est le transfert d'un périphérique à un autre, d'un support à un autre. Ça empêche aussi de lire la musique, les films, les livres, parce que les livres électroniques aussi sont concernés, avec l'outil de son choix. Donc c'est un peu, pour prendre un exemple de la vie matérielle, c'est un peu comme si un éditeur de livres imposer une marque de lunettes pour lire les livres qu'il fait imprimer. Donc, Monsieur Nathan décide que pour lire ses livres, on ne peut les lire qu'avec des lunettes à flelou. Donc, et pas avec des lunettes génériques Carrefour. Ça, c'est pas possible. Donc, transposer à l'ère du numérique, ça veut dire que vous ne pouvez pas lire une chanson vendue en ligne sur un site comme la Fnac avec un logiciel autre que Microsoft. Donc, en l'occurrence, pour les gens du logiciel libre, par exemple, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas lire avec un logiciel libre. Donc ça, c'est un dispositif de contrôle d'usage. Ça empêche des usages qui, jusqu'à présent, sont tout à fait légitimes, tout à fait normaux et parfaitement légaux. Et donc, on crée une loi qui dit que si vous êtes un petit peu obstiné et que vous arrivez, parce que ces mécanismes-là ne fonctionnent pas, ce que produit l'homme avec la technique, l'homme arrive forcément à le contourner. Ça a toujours été prouvé dans l'histoire. Donc on crée une loi qui va interdire de passer outre le mécanisme. Donc, on rend la personne qui change les lunettes, qui tout d'un coup arrive à s'acheter des lunettes génériques Carrefour, elle se les met, elle lit son livre. Le fait de mettre les lunettes sur son nez va vous transformer en délinquant. Donc, en fait, le fait de s'émanciper du contrôle qui est mis en place par le dispositif rend la personne délinquant. Donc, ça, c'est le problème du DATSI. Alors, à l'origine, le texte qui a été posé à l'Assemblée nationale, c'était s'émanciper de ce contrôle, c'était 3 ans de prison, 300 000 euros d'amende, pour lire avec quelque chose qui n'était pas prévu pour. Donc c'était relativement important. Et évidemment, les gens qui donnent les moyens de s'émanciper, qui donnent des informations techniques pour s'émanciper du contrôle, tombent aussi sous le coup de la loi. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la base du projet de loi.
C'est-à-dire si quelqu'un publie sur son site internet des informations sur comment contourner le verrou, qu'est-ce qui lui arrive ?
Alors, avec la loi telle qu'elle est passée, c'est 6 mois de prison, 30 000 euros d'amende.
D'accord.
Puisqu'il faut bien voir que aussi il y a une très forte mobilisation. Ils ont revu à la baisse parce qu'ils se sont dit on est quand même un petit peu, c'est un peu démesuré. C'est les parlementaires en fait qu'on est allé sensibiliser, qui ont des enfants comme tout le monde, et qui n'étaient pas, parce que c'est une loi de lobby. Il ne faut pas oublier ça, on y reviendra, je pense. C'est vraiment une loi de lobby. Et les traités internationaux d'il y a 10 ans, c'était aussi des traités de lobby. Tout ça, c'est des industries qui poussent pour imposer un certain usage de la culture. Je vais prendre un exemple. Sur les DVD, il y a de la pub, des fois. Les mesures techniques, les dispositifs de contrôle d'usage, vous empêchent de sauter la pub. Quel rapport avec le droit d'auteur ? En quoi ça protège un artiste le fait de sauter la pub ? Donc ça permet en fait, ça leur permet d'imposer des conditions d'utilisation des œuvres qui sont hyper restrictives. Les gens qui font de la musique électronique, qui font du sampling et qui font des remixes parfois chez eux sans même les mettre à disposition d'autres personnes, bah ils peuvent plus découper la musique, la remonter, la remixer, etc. Le dispositif empêche. Donc on est dans un mode de pure consommation passive de la musique. Donc Là, c'est 6 mois de prison, 30 000 euros d'amende pour quelqu'un qui propose. Quelqu'un qui contourne le dispositif, donc par exemple sur les CD que vous achetez et qui ont des dispositifs anti-copie, il suffit de mettre un trait de feutre sur la première piste, qui est une piste de données, donc juste au bord du CD. Ça, c'est 3 750 euros avec la loi actuelle. Et on attend le décret que tu as cité tout à l'heure, qui, lui, 750 euros d'amende, si, enfin, c'est une contravention, donc 750 euros pour le fait de transférer avec un outil vers son petit baladeur ou vers son ordinateur.
Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est une contravention dans le terme juridique, c'est-à-dire que on viole les lois de l'État et de la société. C'est pas seulement, on va pas contre les artistes, mais on va carrément contre toute la société dans son ensemble. Tout ça pour éviter de regarder une publicité sur un DVD ou pour pouvoir écouter un CD qu'on a acheté à la FNAC dans son autoradio. Le fait de faire ça, le ministre de la Culture, le gouvernement actuel et puis l'Assemblée et le Sénat ont décidé que que ça allait contre la société, c'était un crime contre la société. Ça, c'est hallucinant.
Oui, précisément. C'est au-delà des sanctions pénales, c'est quoi comment a été vendu le projet de loi d'Avzi aux parlementaires et quels ont été les arguments avancés pour justifier la mise en place de cette loi?
L'argument fondateur en fait de la loi, c'est de dire Internet remet en cause ce qu'on appelle le monopole sur la copie. Donc un auteur a le droit d'interdire le fait de mettre à disposition une copie de son œuvre à quelqu'un d'autre. Mais à quelqu'un d'autre. Quand vous faites une copie chez vous pour vous, ça c'est ce qu'on appelle une copie privée. Donc ce qui a été vendu, c'est de dire, regardez tous ces pirates sur Internet qui s'échangent de la musique gratuitement, quelle honte, personne ne touche d'argent là-dessus, et donc il y a un manque à gagner. Il n'y avait pas d'études. Il y en avait qui disaient, oui, alors, commandé par qui? C'est toujours pareil les études. Qui disaient, regardez, ça fait tomber les ventes de disques. Alors ils mettaient une courbe où on voyait la hausse des ventes des abonnements à DSL et de l'autre la baisse des ventes de disques. On aurait pu mettre le réchauffement climatique, on avait effectivement deux courbes qui se croisent. Et de l'autre côté, il y a d'autres études qui ont montré que les plus gros téléchargeurs étaient les plus gros consommateurs, donc acheteurs de musique. Donc il n'y avait pas de données économiques. Mais il faut savoir qu'en France, on a cette exception culturelle, cette diversité culturelle, et dès qu'on dit on touche aux auteurs, on invoque Beaumarchais, et il y a une espèce de front commun qui se crée derrière cette défense du droit d'auteur, alors qu'en fait, ça permettait principalement à des très grandes entreprises, et c'était elles qui étaient à la manœuvre derrière, de renforcer leur monopole. Je pense à Microsoft, je pense à Vivendi. Donc il y a les diffuseurs et il y a les gens qui font de l'informatique, qui, grâce à ces dispositifs, mettent les gens en captivité, en fait.
Je pense que ce qu'il faut le dire aussi, c'est qu'au moment où la loi a été votée, la FNAC et Virgin en particulier a fait des démonstrations au sein de l'Assemblée nationale parce que les parlementaires n'y connaissaient rien et donc ils sont venus directement à l'Assemblée nationale avec un ordinateur pour montrer les dangers des échanges et aussi pour dire comment les sites de la FNAC en particulier pouvaient être utiles pour les auteurs. Donc il y a le lobbying aussi qui a joué un rôle très important et il ne faut pas nier ce lobbying dans le final de la loi.
Alors, il ne faut pas nier, il est même fondamental, parce qu'en fait, y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle « Députés sous influence », et en fait, qui est un livre qui étudie le lobbying à l'Assemblée en général. Et il consacre le premier chapitre qui traite en fait des dossiers de lobbying qu'ils ont pu observer, ça consacre le droit d'auteur. Alors, on a cet exemple-là où, en fait, des lobbies sont venus dans une enceinte normalement réservée aux députés, faire une démonstration commerciale et donner des coupons de 9,99 € aux députés pour acheter. On n'est pas loin quand même de la corruption dans ce cas-là. On a vu des gens qui avaient des badges d'assistants parlementaires et qui étaient des représentants de la SACEM et qui donc pouvaient se trimballer dans des espaces réservés soit aux députés à leurs assistants et qui se trimballaient alors que c'était des représentants de la SACEM et qui faisaient pression. On a vu toujours les mêmes personnes de la SACEM menacer en fait des députés de leur retirer des subventions qui leur permettent d'organiser dans leur... Parce qu'il y a des députés maires, donc les gens sont maires et ils ont de l'argent de la SACEM pour organiser des festivals dans leur localité. Et on allait les voir, si vous ne votez mal, si vous ne votez pas ce qu'on vous dit, on va vous retirer la subvention. Donc ils ont été soumis à une pression, les parlementaires, énorme. Et autant, on a eu l'effet de surprise qu'a joué pour nous en décembre, c'est-à-dire qu'on les a... Ils s'attendaient pas à ça, ils pensaient avoir tout verrouillé. Et ils se sont fait prendre de vitesse, les internautes ont envoyé des mails, mais par milliers, aux députés. Nous, on a eu des députés qui nous expliquent que leurs enfants leur avaient dit « Papa, tu vas pas voter ce texte qui est complètement liberticide. » Donc le député lui-même, pris par son gosse, en fait, se rendait compte qu'il était en train de faire n'importe quoi. Et Le texte explose, le gouvernement fait une pause, et pendant la pause, tous les lobbies par en dessous ont fait tout leur travail et on est revenu avec un texte qui est redevenu liberticide alors que les députés avaient su s'émanciper en fait de cette pression des lobbies.
On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. Il y a des gens là, comme par exemple, d'abord, il y a les gros qui est comme un qui a un gros mot qui sait plus son nom et qui n'écrit pas et qui ne parle pas et qui n'écrit pas et qui ne parle pas et il y a l'autre type qui parle et qui écrit. Est-ce qu'il trahit s'il parle des nazis, de l'Espagne, de la résistance, des pays opprimés, du prolétariat, de la guerre civile? Il faut répondre que non, que de même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment, on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment. Donc, pour ces gens ou pour d'autres, on n'écrit pas, on ne parle pas, on ne propagande.
Vous êtes toujours sur FPP dans les oreilles loin du front. Vous venez d'entendre Chad Unpoe que vous pouvez télécharger intégralement sur www.chad-unpoe.net. C'est un album qui est entièrement en copyleft pour offrir des contre-exemples à ce que viennent de voter nos parlementaires. Christophe, tu me citais une étude assez intéressante hors antenne qui serait intéressant de reprendre là.
En fait, donc on disait que c'était une loi de lobby. Donc c'est une loi de lobby en France. Donc l'avantage qu'on a en France, c'est qu'on l'a démontré. Parce que quand les parlementaires ont un petit peu repris leur autonomie de pensée, ils ont voté quelque chose en fait, qui allait au contraire de ce que souhaitaient les lobbies. Et on a vu Apple hurler, parce que Apple était directement intéressé par le texte, et le secrétaire d'État au commerce américain intervenir dans un processus législatif français pour dire « il va falloir me changer ce que vous avez voté ». Et ce qui est intéressant, nous, on s'est livré, c'est une gymnastique intellectuelle amusante, c'est de dire quelle est la vitesse moyenne de la politique étrangère américaine. Si on prend les dates entre le moment où les lobbies américains, donc de l'industrie du disque et du film, ont fait cette proposition de mettre en place des verrous techniques pour contrôler l'usage aux États-Unis, que ça a été repris par la Maison-Blanche, et le moment où c'est devenu une loi de la République, on obtient, donc on divise le temps qui s'est écoulé par la distance entre Washington et Paris, et on obtient la vitesse moyenne de la politique étrangère américaine qui est de 1,4 km par jour.
Donc ce qui est pas mal. Hein.
Ce qui est pas mal. Mais ils ont mis du temps. Et surtout, on a été le pays le plus résistant. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'on a bien résisté, puisqu'on a été le dernier pays. Et ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, la loi d'ATSI nous a fait, non pas signer le traité OMPI, mais le faire entrer en vigueur, non seulement en France, mais aussi en Europe. Et la Commission européenne faisait une pression énorme, parce qu'en fait, on était le dernier pays à bloquer le fait que les traités rentrent en vigueur en Europe. Et c'est pour ça qu'on a été soumis à une pression énorme, parce qu'il fallait à tout prix qu'on craque. Donc les députés français étaient en train de bloquer ce traité depuis 10 ans. C'était un projet de 10 ans quand même.
Mais en France précisément, cette loi d'ATSI, elle rentre en collision frontalement avec par exemple, le droit à la copie privée. Qu'elle nie.
C'est bien le problème. Maintenant, il y a des lobbyistes, je pense à quelqu'un de la SACD, qui a mis sur son blog.
C'est le film, la SACD.
Ouais, voilà, c'est pardon, le film. Qui a mis sur son blog qu'en fait, les DRM, c'était pas bien du tout, parce qu'ils s'aperçoivent que pendant la DAFCI, ils ont lancé les verrous et ils ont fait la promotion des verrous au niveau politique, et que maintenant, y a les constructeurs de verrous qui se frottent les mains et qui se disent. Et maintenant, c'est la fin de la copie privée. On va arrêter de payer une taxe quand on achète des CD qui va à ces collectivités d'artistes, puisque eux, ils récupèrent un peu d'argent là-dessus. Le débat, c'était pas ça, mais n'empêche que l'effet de bord de la DAFCI, c'était justement de réduire les verrous. Et ils ont été très intelligents, les lobbyistes américains, parce qu'ils ont utilisé les lobbies de la culture française pour qu'ils se détruisent eux-mêmes leur propre business de la copie privée. Donc on voit non seulement la rapidité d'un texte américain, mais aussi l'intelligence qu'ils peuvent avoir.
Et d'ailleurs, dans le rapport qui préconisait la mise en place de ces verrous, on a entendu au début d'émission un extrait qui datait de 85, en fait, je pense, puisque la loi, c'était 85. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était que dans le rapport qui préconisait les verrous aux États-Unis, il parlait de la French Law, la petite French Law américaine qui, justement, prévoyait que le public, quand il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a plus de droit d'auteur, on est chez soi. Et donc, on fait des copies privées. Et en échange, il y avait sur les supports vierges, les baladeurs numériques, une redevance et les montants collectés allaient aux artistes. Là, si on ne peut plus copier, on ne va plus payer. Ou alors, c'est le beurre et l'argent du beurre. Et actuellement, parce qu'on dit la personne de la SACD du film, elle savait pertinemment que ça allait remettre en cause. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est garder les deux. C'est-à-dire avoir le dispositif de contrôle qui interdit la copie et de l'autre côté, avoir la redevance qui continue de tomber régulièrement. La Commission européenne n'a pas l'air d'accord. Donc on est dans des sortes de schizophrénie aussi des uns et des autres et une volonté de beurre et d'argent du beurre.
Mais donc voyons ce qu'il y a après le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire nous en somme. Et justement, on parle du dispositif anti-copie, mais est-ce qu'on pourrait décliner plus précisément ce que ça va donner? Parce que là, j'ai sous les yeux un papier qu'avait fait la Ligue au débit, un très bon papier pour expliquer ce qu'est la DATSI, sa généalogie, tout ça. Je leur ai piqué toute la chronologie en début d'émission, je les remercie. Donc il y a le dispositif anti-copie. Il y a le dispositif anti-usage dont tu as parlé, qui incite, voire qui oblige à l'utilisation de logiciels Microsoft ou Apple, d'ailleurs, je pense, qui doivent prévoir Apple, ouais. En tout cas, absolument pas Linux. Quoi. On peut plus lire le DVD sous Linux, sauf à contourner la loi et à essayer de briser le verrou, c'est-à-dire de devenir un délinquant. Voilà. Il y a également la question de l'identification de l'utilisateur, du traçage de l'usage. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de ça?
C'est assez simple, en fait. Quand on télécharge de la musique sur Internet, lorsqu'on passe par des sites de téléchargement commerciaux, on va nous donner un morceau de musique qui sera verrouillé. Et pour obtenir la clé, on va être obligé de demander à chaque lecture, à un serveur qui appartient à la compagnie qui gère les verrous numériques, est-ce que vous me donneriez l'autorisation de lire la musique? Et à chaque fois qu'on va vouloir lire, il va falloir demander cette clé-là. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un DRM qui dise « Ah ben la musique, elle est écoutable seulement de 8h du matin à 8h du soir. Et la nuit, vous n'avez pas le droit de l'écouter. » Puisqu'on demande à chaque lecture l'autorisation à la compagnie qui crée les DRM. On ne demande pas l'autorisation à l'artiste. On demande à Apple, à Microsoft et à toutes les entreprises qui créent des DRM, mais absolument pas aux artistes. Et les DRM, ça a été aussi introduit dans la loi sur une erreur idéologique. C'était de dire les DRM, ça va empêcher qu'on retrouve de la musique sur les réseaux pair à pair, sur ce que le ministre appelle les réseaux pirates. Mais c'est absolument faux, puisque le jour où Madonna sort son titre qui est seulement téléchargeable sur des CD qu'on ne peut pas copier ou sur des plateformes de téléchargement commercial où on ne peut pas non plus exercer son droit de la copie privée, à peu près au même moment, on le retrouve sur les réseaux pair à pair. Donc la démonstration est flagrante. Ça ne va absolument pas contre la piraterie. C'est juste là pour assurer de l'argent aux grandes firmes du logiciel.
Non, mais et tout simplement, je vais m'acheter un disque chez un disquaire. Je m'aperçois qu'il ne fonctionne pas sur mon ordinateur. Comme j'en ai acquis la propriété, je me dis que pour quand même réussir à l'écouter, je vais aller le télécharger quelque part. Ça me semble... c'est la logique qui va conduire à ce type de verrouillage.
À ce type d'usage.
Exactement. Oui. Et aussi, il y a le côté... les films, en fait... Donc, ce qui fait peur aux grandes majors américaines, c'est que le film n'est même pas encore sorti en salle, qui est déjà disponible sur Internet. Ça, ce n'est pas le fait du type dans sa chambre. Ça sort directement des des studios, et la mise en place de mesures techniques, de dispositifs de contrôle sur les DVD, ça changera strictement rien. Ça sort directement des studios. Donc c'est toujours pareil. Les industries de l'informatique, qui elles savent pertinemment que ça sert à rien, s'en servent principalement pour rendre les gens captifs. Tout à l'heure, tu parlais des DRM Microsoft, Apple, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que quand on va sur la plateforme Apple, on peut écouter que sur des baladeurs Apple. Et en fait, ils font des chasses gardées. Donc on met la personne en captivité et on essaye de multiplier les ventes liées, ça s'appelle une vente liée, via ces mécanismes de contrôle.
C'est-à-dire vente liée, c'est-à-dire on va vendre à la fois non seulement une musique et le logiciel avec lequel l'écouter, voire un système d'exploitation. Si quelqu'un qui est sous Linux et qui est entièrement légaliste veut écouter un CD qu'il vient d'acheter, qui est un dispositif anticopie, il doit s'acheter un ordinateur Apple ou avec un système Windows en toute logique.
Exactement.
Mais ça ne concerne pas que les utilisateurs de Linux. L'utilisateur, le commun des mortels, aura face à faire à ce genre de problème. Je pense, d'ici quelques mois, il y a Microsoft qui va sortir... son iPod s'appelle Zune. Mais il se trouve que ce baladeur-là, pour écouter la musique dessus, il va falloir télécharger la musique qui sera avec un DRM Microsoft, mais spécifique pour Zune. Et ces DRM-là ne seront pas compatibles avec les DRM précédents. C'est-à-dire que même Microsoft divise son marché pour pouvoir vendre son baladeur Zune et que les baladeurs des autres constructeurs ne puissent pas fonctionner, alors que c'est lui qui fournit la technologie.
Cette chanson s'appelle Marre des pauvres, parce que les pauvres, y'en a marre. Y'en a marre. Les pauvres, les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre des pauvres. Quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre des pauvres. Et s'il y avait un tout petit peu moins de pauvres, il n'y aurait pas toute cette misère. Marre des pauvres, y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres, oh oui, marre des pauvres, marre. Y'en a na 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 na. Y'en a marre des pauvres. Y'en a marre. Les pauvres, quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup faut pas qu'ils s'étonnent s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres. Ils font chier. Ils sont maigres. Marre des pauvres. En plus ils se tapent la honte, ils sont mal habillés. Y'en a marre des pauvres. Les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre des pauvres. Heureusement les très très riches, tu peux crever, ils s'en foutent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres.
Et voilà, vous êtes toujours dans les oreilles, loin du front, sur FPP. Vous venez d'entendre Didier Super, l'excellent Didier Super, qui est également intégralement téléchargeable. Il suffit que vous trouviez son site, en fait. Il donne lui-même les liens vers un téléchargement illégal de ses œuvres. Donc,
Pas illégal si lui il l'autorise.
Si, parce qu'il envoie justement vers des réseaux qui sont considérés comme parfaitement délinquants par.
Oui, c'est considéré, mais n'empêche que si l'artiste décide de le mettre sur un réseau pair à pair, c'est légal.
Mais sa maison de disque, elle aura peut-être un mot à dire.
Je ne sais pas quelle est sa maison de disque. Enfin, bon, bref, on vous encourage à écouter Didier Super. Je n'ai pas le site en tête, mais une petite recherche vous le donnera. Très très vite. On était en train de toujours avec Christophe Esperne de EUCD.info et avec Tanguy Morlier de Stop DRM de parler de la loi DATSI, et on en était arrivé à la question du traçage de l'usage en termes techniques, c'est-à-dire la manière dont ces dispositifs ces verrous numériques qui sont mis sur les supports qu'on achète visent en fait à venir fouiner dans le type de comportement qu'on a. Pour donner un exemple assez extrême, il y a des constructeurs de lecteurs multimédia qui ont mis au point un système de reconnaissance d'empreintes digitales, c'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ce lecteur CD ou ce lecteur DVD, il faut avoir la bonne empreinte digitale. Et par exemple, l'exemple est donné par la Ligue au débit. Si la petite sœur de quelqu'un veut écouter un CD sur son lecteur, elle ne pourra pas parce qu'elle n'a pas la bonne empreinte digitale.
Et plus concrètement pour les auditeurs, il faut savoir que ça peut paraître de la science-fiction, mais dans la réalité, Sony a lancé un CD qui, lorsqu'on le mettait sur l'ordinateur, installait un mouchard qui vigilait tout ce qui se passait sur l'ordinateur et envoyait toutes les informations à Sony directement. Donc c'est pas que de la science-fiction, ça existe réellement dans la vie.
Et c'est toujours le même problème avec les bases de données. Donc là, c'est un sujet qui est plus large, c'est le fichage général et là, des usages culturels. On est sur des choses qui permettent de détecter des opinions philosophiques, religieuses, politiques. Donc je pense aux livres. Quand on commence à tracer toutes les lectures que font les gens, ça pose un problème concret. Si je lis, par exemple, j'écoute du punk, j'écoute Anarchy in the UK, par exemple. Je suis un dangereux anarchiste. Si je commence à lire le Coran, il y a des gens qui vont commencer à extrapoler sur le fait que je suis peut-être un dangereux intégriste. Je lis Karl Marx, je suis forcément un communiste. Et tout ça est stocké, va être stocké à distance. Donc on va se constituer des bases de données sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1 million, 2 millions, 3, 4 millions de personnes. Et tout ça, il suffit qu'un jour, et je ne le souhaite pas, mais on ne peut pas prévoir l'avenir, on revienne à des régimes un petit peu plus totalitaires que ceux qui existent actuellement, qui est la dérive, je dirais, s'accentue. Ça posera un vrai problème, parce qu'on pourra effectivement commencer à profiler les gens sur leurs opinions philosophiques, politiques et religieuses.
Oui, il n'y a pas simplement le danger totalitaire, il y a tout simplement que ça se revend, ça se passe.
Bien sûr,
ce genre de données.
Tout à fait.
C'est peut-être ça d'abord, la motivation.
La motivation principale, bien entendu, c'est ça, c'est de faire des traçages de comportement et de vous stimuler avec la bonne pub au bon moment. C'est un peu ce qu'on voit dans Le nom m'échappe, le film avec Tom Cruise, où quand il rentre dans un magasin, Minority Report, c'est bonjour monsieur machin, ça reconnaît son nom et ça lui présente hier on sait qu'il a été à tel endroit, donc on lui parle du même restaurant, etc. Donc le risque effectivement est là, c'est que la formation s'adapte à ce que vous avez fait précédemment. Et c'est des modèles économiques, je crois que vous avez eu une émission la semaine dernière avec Valentin Lacombe, mm-hmm. Ils ont peut-être parlé de Google. Mm-hmm. Google fonctionne comme ça, enregistre toutes les recherches qui sont faites sur Internet, et le DRM, c'est un moyen d'imposer ce mécanisme-là de collecte de données personnelles et de stockage distant sans que l'utilisateur puisse s'y opposer. Donc tout le risque est là. Et nous, on voulait faire passer ce qu'on appelait une exception de contournement pour vie privée, c'est-à-dire qu'on puisse désactiver un dispositif, et ça a été refusé. Donc le fait, nous, on a voulu faire des démonstrations comme ça, de dire, bon, je peux le désactiver pour protéger ma vie privée, et on refusait ça. Donc c'est intéressant de voir que par la loi, on cherche à imposer des choses qui normalement sont qui jusqu'à présent étaient illégales.
Et lorsque vous avez discuté avec les parlementaires, ça a été quoi leurs arguments pour justement justifier le passage de la loi d'Avzy? Ils avaient des arguments qui se tenaient ou c'était simplement le discours de...
L'incompétence totale.
Il y avait l'incompétence, il y avait ceux donc, qui étaient forcément incompétents qui vous disaient mais il faut bien protéger les auteurs, mais dès que vous... C'est des gens intelligents quand même, donc il suffit de discuter avec eux. Et puis, à un moment, tout argument rationnel disparaît et on se retrouve face à ce qu'on appelle la pression politique. C'est-à-dire que, par exemple, à l'UMP, on a le président de l'UMP qui... le président, M. Sarkozy, lui-même, qui, donc, à un moment, a pris position clairement pour la loi dans un sens qui était un sens répressif. Et petite anecdote, on parlait du lobbying. Il faut savoir que le conseiller parlementaire de Nicolas Sarkozy, donc c'est celui qui fait la relation entre lui, en tant que ministre de l'Intérieur, hein, pas en tant que président de l'UMP, même si ça se confond, donc en tant que conseiller parlementaire, a 51% de part dans une société de lobbying qui a comme client des producteurs audiovisuels et qui est intervenu sur le projet de loi en question. Et lui-même s'est saisi du dossier après le vote en décembre, qui n'était pas le bon vote, et est allé lui-même voir les différents parlementaires en leur demandant « Nicolas, t'as demandé de porter ça ». Donc il y a un moment, la rationalité ne joue plus, et ce qui se passe, c'est tout simplement des pressions, c'est des menaces à l'investiture. Tu n'auras pas ton investiture si tu ne votes pas de cette façon-là. Nous, tous les gens qu'on avait réussi à convaincre ne sont pas allés voter quand le texte s'est présenté au final. Ils ne sont même pas présentés en hémicycle parce qu'on leur a fait savoir qu'ils n'étaient pas intelligents de s'opposer comme ça à un texte de façon flagrante.
Donc l'avenir législatif n'est pas super brillant. Et est-ce que, puisque l'émission avance, est-ce qu'on pourrait aborder justement les... Quel type de riposte en fait sont apportées à ça? Je pense, voilà, notamment le collectif Stop DRM. Quel type d'action vous menez maintenant que la bataille législative est perdue, quoi, finalement? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, on a plusieurs fronts. On continue à informer le citoyen parce qu'on pense que la semi-victoire de décembre, où on a vu les députés totalement ahuris par la pétition et puis par les sollicitations de leurs citoyens, on pense que c'est vraiment un moyen de faire pression politique, puisque le ministre s'est quand même engagé à réviser la loi d'ici 6 mois, puisqu'il a admis quand même qu'il était totalement largué sur les aspects techniques. Donc il faut continuer à faire une pression au niveau politique. Et cette pression, elle est d'autant plus efficace quand elle passe directement par le citoyen qui vote pour le député. Et c'est pour ça que la pression, elle a plutôt bien fonctionné au niveau des députés en décembre. Par contre, quand on allait voir les sénateurs, là, c'était beaucoup moins efficace, parce que les sénateurs, ils n'en ont rien à battre des citoyens. Basiquement, c'est vraiment ça. Ils sont plus préoccupés par les maires, par leurs députés, par les gens qui les élisent, mais le citoyen final, ils n'en ont pas grand-chose à battre. De leur image, quand on tape sur leur image, là, ils sont un peu plus attentifs. Donc il y a cet aspect-là d'essayer d'informer le citoyen, et on le fait en faisant ce qu'on appelle des flash mobs, c'est qu'on donne des rendez-vous à des gens, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, et puis on les envoie... essayer d'informer les gens. Donc on allait plusieurs fois dans des FNAC, dans des Virgin, envahir les FNAC et les Virgin, et faire du tractage à l'intérieur de la FNAC. Donc on se met vraiment dans le magasin, et puis on se fait un petit peu on se fait sortir gentiment, mais n'empêche que ça a sa petite efficacité. Et puis récemment, on a décidé, vu que ça n'avait pas été plus efficace que ça, on a décidé de tester nous-mêmes la loi. Et on a été 3 à se dénoncer pour avoir violé la DAFSI. Donc il y en a un qui a téléchargé la musique avec un DRM et qui l'a converti au grand crime vers son baladeur qui n'était pas compatible avec le DRM qu'il avait acheté. Donc il l'a acheté sur iTunes, le portail de iPod de Apple, où on peut écouter la musique seulement sur un iPod. Et il a converti ça en MP3. Il a fait la même chose à la FNAC. Il y en a un autre qui a pris un DVD, qui l'a converti en un format ouvert, qui s'appelle le DivX, pour pouvoir le lire dans l'avion, puisqu'il partait en voyage. L'un d'eux a aussi publié une espèce de petite recette pour expliquer aux gens, écoutez, si vous achetez de la musique sur iTunes, voilà comment on va convertir de la musique, parce que vous êtes peut-être un peu d'argent pour acheter de la musique, mais vous n'avez peut-être pas 200 euros à mettre dans un baladeur hyper fashion et design, c'est peut-être pas très la peine. Et il y a une autre personne qui a lu un DVD sous Linux, et ça c'est pareil, ça tombe sous le coup de la loi DAFSI. Donc, on est allé au commissariat, on s'est dénoncé, et il se trouve que récemment, on était informé par les instances judiciaires que notre autodénonciation avait été prise en compte. Et donc, pour l'instant, nous sommes dans les tuyaux de la justice, et on va voir qu'est-ce qu'ils retiennent. Est-ce qu'ils trouvent ça vraiment illégal? Quelle peine on risque d'avoir? Parce que l'un d'eux encourt 300 000 euros d'amende.
6 mois et 30 000 euros.
Pardon, 6 mois et 30 000 euros d'amende. Donc, on va tester comme ça et voir si on peut prendre un citoyen comme ça lambda et lui faire subir 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende.
Parce que vous êtes des pionniers, en quelque sorte, c'est ça? Vous êtes les premiers à...
On est les premiers à se dénoncer pour ça. Pour l'instant, il n'y a pas...
Il n'y a jamais eu encore de jugement
Non, la loi vient juste d'être...
En France, non. Donc, il n'y a pas eu de jugement. Aux États-Unis, des journalistes qui avaient mis à disposition le code source, en fait, la recette du programme pour contourner, ont été condamnés sur une base d'une loi similaire aux États-Unis.
Mais c'est tellement nouveau en France que vous racontez sur votre site... sur le petit compte-rendu de l'opération, qu'un des flics qui vous a reçu vous a demandé si vous n'étiez pas en train de dénoncer un délit imaginaire. Ce qui est assez ubuesque. Enfin, ce qui dit, en fait, évidemment, tout ce qu'il y a parfaitement exagéré dans cette loi, quoi.
Oui, tout à fait. Et puis lui aussi, il imaginait que des centaines de milliers de citoyens allaient venir dans son commissariat et se dénoncer, puisque concrètement, c'est
voilà
ça.
Voilà peut-être une petite action à mener, inciter les gens à aller se dénoncer.
Se dénoncer. On va d'abord essayer avec les trois exemples qu'on a là, et puis avec les résultats qu'on aura, on fera peut-être une action de plus grande envergure.
Parce que ce que vous avez fait, vous, en vous dénonçant, c'est contourner les DRM, mais pour continuer, pour utiliser en fait la musique ou la vidéo que vous aviez achetée avec les mêmes droits qu'auparavant. Vous n'avez pas en fait fait. C'est quelque chose. Je ne sais pas trop comment l'exprimer.
Ce n'est pas de la contrefaçon. Ce n'est pas acte qui était puni comme une violation du droit d'auteur. C'est un acte qui était reconnu comme parfaitement légal et qui l'est toujours. Ce qu'on fait, c'est qu'on rend illégal le fait de faire sauter le DRM. Mais ce qui suit derrière est parfaitement légal.
On a acquis tous les droits sur nos DVD, sur la musique, sur les CD. Parce que même un CD, il se peut que vous achetiez un CD dans le commerce et que vous ne puissiez pas le lire. Est-ce que si jamais on essaye de trouver une technique qui vous permette de lire un CD que vous avez acquis commercialement et légalement, est-ce que on doit vous faire devenir un délinquant?
Mais qu'en pensent justement est-ce que ça va pas avoir l'effet totalement inverse? Enfin, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, quoi. À savoir que on prend plus la peine, ceux qui prenaient la peine d'acheter la musique et la vidéo vont pas le faire. La Fnac et Virgin, par exemple, je pense qu'ils sont pas totalement, ils doivent bien entendre ce type d'argumentation, non?
Ça, c'est déjà un premier effet de bord qui est concret, mais il y a quelque chose qui est quand même symptomatique. Le ministre a hurlé à la gratuité en disant « la gratuité ne permettra jamais
c'est
de
horrible,
rémunérer ».
C'est
voilà.
Horrible.
Et là, on vient de voir quelque chose d'intéressant. Donc, il y a des sites, la Dailymotion et YouTube, qui sont des sites qui permettent aux internautes de mettre des vidéos en ligne. Sur ces sites, la plupart des vidéos sont des vidéos qui ont été récupérées sur des réseaux de télévision et donc qui sont mises de façon totalement illégale à disposition. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Warner, par exemple, qui se pointe et qui dit « ouais, on va passer un accord, on va toucher de l'argent de la publicité, tout ça sera gratuit. Hein. Nous, on touchera de l'argent sur la publicité. » On voit Google qui achète 1 milliard 65 millions de dollars YouTube, qui est un site qui permet de faire ça. Et en fait, tout ce discours, la loi, ça fait 10 ans en fait qu'il pousse ce truc, c'est totalement obsolète et anachronique. La gratuité sur Internet, c'est quelque chose qui... Il y a des gens qui créent des modèles économiques sur de la gratuité. Et on voit les promoteurs de ce type de loi de renforcement qui cherchent en fait à s'accoler à des modèles de gratuité et qui donc en fait disent eux-mêmes bah, effectivement ce qu'on a passé, la vente de tout ça, ça marchera pas et on va être obligé de faire avec les réseaux peer-to-peer, les sites de diffusion gratuits, etc., etc. Donc c'est totalement anachronique.
Donc tout ça, on peut le voir comme une sorte de combat d'arrière-garde à une industrie qui aurait en fait loupé la marche de la numérisation en fait.
Exactement.
Totalement. De toute façon, quand tu parlais tout à l'heure de l'historique de cette loi-là en 94. Les réseaux pair à pair, ça n'existait pas. Donc, c'est clair que la visée derrière, c'est absolument pas de lutter contre la piraterie. Et ça va, en mettant un flic derrière chaque internaute et derrière chaque consommateur de biens culturels, évidemment, ça va faire fuir les consommateurs. Et donc, c'est...
Et puis, enfin, moi, je veux juste rajouter à les réseaux pair à pair, Internet, la base, c'est un réseau pair à pair. C'est un réseau où chaque personne qui se connecte a la même possibilité que l'autre. Donc, quand on entendait les gens dire qu'il faut anéantir les réseaux pair à pair, ils disaient en substance qu'il faut détruire Internet, ce qui est totalement ridicule. Et si on tue une technologie donnée, par exemple, Imul, Idonke, qui sont les réseaux utilisés, il y en aura une autre qui apparaîtra demain, et ainsi de suite. C'est vraiment des combats d'arrière-garde et c'est une lutte. Lutter contre la technique avec la technique, c'est vraiment une lutte sans fin, quoi.
Mais en plus, ils s'attaquent, enfin, l'industrie audiovisuelle s'attaque de cette manière-là au logiciel libre, ce qui est un peu une aberration, étant donné que le logiciel libre, c'est là où s'inventent en fait les nouvelles technologies également, quoi. Enfin, c'est
En fait, quand ils se sont rendus compte qu'ils tapaient sur le logiciel libre, ils ont appelé ça des effets de bord, des dommages collatéraux. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui utilisaient des logiciels libres. Et puis, pas que le consommateur final. Ça concernait des grandes entreprises, les administrations, etc.
La gendarmerie, la défense.
L'armée.
Voilà. Oui. Mais Microsoft a bien vu en créant... Parce que le problème de cette loi-là, pour conclure, c'est qu'effectivement, c'est d'arrière-garde, etc. Mais ça crée une insécurité juridique majeure pour les gens du logiciel libre qui savent qui peuvent plus publier donc leur logiciel pour lire des DVD. On sait que si on ne peut pas lire un DVD, les gens ne sont pas forcément attirés par l'outil. Donc ça permet à Microsoft de maintenir son monopole. Ça crée une insécurité juridique pour le public qui ne sait plus ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire chez lui. Donc ça permet aux producteurs d'imposer des conditions totalement arbitraires, le fait de la publicité, interdit de zapper la publicité. Et puis ça crée une insécurité juridique aussi, entre guillemets, pour les artistes et les artistes eux-mêmes. On parlait tout à l'heure de la personne qui voulait mettre à disposition. On s'est posé la question, est-ce que c'est légal ou pas? Avec les DRM, ils perdent ce droit, en fait, de permettre le libre-échange, puisque le diffuseur met un DRM, et même si lui souhaite laisser le libre-échange, il perd cette possibilité-là.
C'est le diffuseur qui choisit, en fait, de poser le verrou. Et ça concerne beaucoup de supports actuellement ou...
Alors, tous les supports numériques.
Voilà. Tous les fichiers vendus en ligne sont DRMisés. Les CD, tous les DVD ont un dispositif, mais qui est tellement contourné qu'on s'en rend même plus compte qu'il y a un dispositif de contrôle. Et sur les CD, ça se multiplie à grande vitesse.
Bon, mais l'émission se termine, donc on va vous remercier pour cet éclaircissement. Guillaume, tu avais une...
Non, c'était juste... il y avait une conclusion éventuellement
oui. Parce qu'on peut peut-être... Il y avait cette semaine une nouvelle de l'industrie du disque du Canada qui se réjouissait de ces excellents résultats. Et il se trouve que c'est ceux qui sont le plus libéral dans l'adoption de cette directive UCD. Ils ont obligé l'interopérabilité. Et l'effet qu'on voit immédiatement après, c'est que l'industrie du disque et l'industrie de la culture se portent très bien.
Sachant que l'industrie du disque et de la culture, enfin l'industrie du divertissement, etc., comprise de manière très large, je crois que c'est l'industrie qui a connu la plus forte croissance et qui devient une des premières industries au monde. On va, ben voilà, il nous reste plus qu'à donner les adresses de vos sites. Peut-être vous pouvez les donner vous-même pour que je ne me trompe pas.
Donc UCD Info, c'est http://ucd.info, en sachant que nous, on était un petit peu un collectif saisonnier, c'est-à-dire qu'on travaillait sur le projet de loi, etc. Donc on continue nos actions. Moi, je travaille pour l'APRIL, donc, qui est l'association de promotion pour la recherche en informatique libre. Donc c'est april.org et on fait la promotion du logiciel libre aussi. Donc vous pouvez aussi suivre l'actualité là-dessus.
Et StopDRM, on peut trouver notre site web sur stopdrm.info et vous serez informé via ce site de la suite de nos actions et particulièrement de nos trois auto-dénonciateurs.